Stéphane Bally, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de Négawatt et vous serez donc ce mardi 2 avril à Arras à l'invitation de Attaka Artois Ternois. Alors peut-être pour les auditeurs, auditrices, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le principe de Négawatt ?
Négawatt est une association, on va dire, c'est une initiative de la société civile et on peut voir un peu comme un, ce qu'on appelle aussi un think tank, c'est-à-dire un cercle de réflexion sur les questions énergétiques et qui travaille sur des scénarios de transition énergétique au niveau national. Et ce qui est important à souligner, souvent l'image qu'on a de l'énergie, c'est une question d'ingénieur. Ça regroupe pas que des ingénieurs, bien au contraire. On a aussi des sociologues, des urbanistes, au sens où l'énergie est partout. C'est aussi bien pour se chauffer que pour se déplacer. Et donc, on a besoin évidemment de toutes les compétences pour pouvoir proposer des scénarios de transition énergétique.
Alors peut-être, pourquoi il faut, selon vous, une transition énergétique ?
Le constat, c'est la conjugaison de trois crises. La première, c'est une crise, la crise climatique, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. La seconde, c'est les fossiles, et on peut dire la fin des fossiles faciles. Et la troisième, c'est la question du nucléaire, qui, dans le début des années 2000, qui a été présenté comme un peu comme une solution à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et déjà, la catastrophe de Fukushima nous a rappelé le caractère non soutenable et le risque inadmissible. Et donc, c'est trois bonnes raisons de s'intéresser aux questions de l'énergie et trois raisons qui ont motivé le travail de Négawatt.
Le travail de Négawatt a abouti à un scénario, hein, c'est un plan 2011-2050, c'est ça ? Quelles en sont les préconisations ?
Alors, avant de préconisations, c'est déjà de repartir non pas d'avoir une approche sur l'offre énergétique, mais plutôt sur la demande, et finalement, c'est même sur nos besoins. C'est bien de prendre le problème dans le bon sens et non pas raisonner uniquement sous la forme d'offres énergétiques et de repartir quels sont nos besoins. Et nos besoins, finalement, sont, j'évoquais, de chaleur, de mobilité et d'électricité, pour faire simple, pour s'éclairer, pour faire tourner son frigo ou allumer sa télé ou son ordinateur. Et c'est bien de partir de ces besoins, de voir quels sont les moyens en amont à mobiliser de façon à satisfaire ces besoins et non pas, comme ça a été fait, on va dire, précédemment, notamment avec le plan de développement du nucléaire où on a développé les centrales et finalement, pour un peu trouver un débouché à la production, on a ce n'est créé, du moins fortement incité au développement du chauffage électrique, par exemple. Donc c'est bien de partir des besoins, ça c'est le premier élément fort et différenciant d'autres travaux. Et l'autre élément, c'est de jouer d'avoir une approche sur la demande en deux volets, qui est un premier volet qu'on appelle de sobriété énergétique. La sobriété, c'est modérer sa consommation ou ses besoins. C'est par exemple rouler moins vite sur l'autoroute, ne pas éclairer les enseignes de magasins toute la nuit. Voilà, grosso modo, la sobriété, c'est tout ce qui coûte rien qui permet de réduire les besoins. C'est valable au niveau individuel, mais aussi collectif. Je prends souvent l'exemple de la mobilité. Si collectivement, on a décidé de construire une voie de chemin de fer plutôt qu'une autoroute, on voit bien que ça va guider notre mobilité. Donc voilà, le premier volet, c'est la sobriété. Le second volet, c'est l'efficacité, c'est utiliser moins d'énergie pour satisfaire un même besoin. Ça va être par exemple dans un bâtiment isolé, sa maison. Et on voit bien que sur ces deux volets nous ont permis de réduire la demande. Ces deux se conjuguent pour diminuer notre demande énergétique. Et enfin, le volet offre, c'est de substituer au maximum aujourd'hui notre approvisionnement qui provient du sous-sol, que ce soit des fossiles à travers les hydrocarbures, pétrole, gaz et charbon, ou de l'uranium pour les fissiles, et donc de substituer au maximum par des énergies renouvelables pour donc les besoins énergétiques résiduels.
Je reviens sur la question de la sobriété énergétique. Les gens qui critiquent le plan Négawatt attaquent notamment les estimations justement en termes de sobriété énergétique, parce qu'il me semble que selon les estimations du plan Négawatt, il faudrait réduire de moitié la consommation d'énergie dans le pays. Hein, vous me dites si je dis des bêtises. Et c'est ces estimations qui semblent poser problème, quoi. Comment vous voyez ça, vous ?
Alors, deux éléments. Le premier, c'est on a un système, si on analyse bien le système énergétique dans sa globalité, on a un système qui est peu efficace. Et pour exemple, les pertes de production des centrales nucléaires, ça va être les panaches de vapeur, ou ce qui se voit moins à Gravelines, mais c'est l'eau chaude qui est reversée dans la mer du Nord, donc à Gravelines, sont identiques à la totalité des besoins de chaleur annuels nationales, qui est notre premier besoin énergétique. Donc, en donnant cette illustration, on voit bien qu'on a un système énergétique qui est vraiment peu efficace. Donc déjà, le premier élément, c'est améliorer l'efficacité énergétique du système. Le deuxième élément est de sortir un peu de l'hexagone, et en prenant les deux exemples que sont le Danemark et l'Allemagne, qui, hélas, ce ne sont pas des plans, des travaux non institutionnels, mais d'un point de vue institutionnel, leur objectif à l'horizon 2050, c'est-à-dire le même horizon que Négawatt, c'est de réduire de moitié les consommations énergétiques. Alors, ce qui peut éventuellement paraître peut-être utopique au sein de l'Hexagone, finalement, se pratique dans des pays qui sont limitrophes, si on prend l'Allemagne, et quand même assez peu éloignés si on prend le Danemark. Donc cette sobriété, cette efficacité, elle est bien évidemment indispensable. Et autre illustration, l'ADEME, hein, qui est l'agence en fait de maîtrise de l'énergie, qui est un peu le bras armé institutionnel pour tout ce qui va être maîtrise de l'énergie et environnement, dans ses travaux aussi de prospective, en fait, vise à peu près à réduire de moitié la consommation énergétique à l'horizon 2050. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en analysant l'ensemble des travaux de prospective, c'est-à-dire de réflexion à long terme, on s'aperçoit que seules les ambitions de réduction conséquentes des consommations énergétiques permettent de réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle le fameux facteur 4, diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Eh bien, seuls, finalement, les travaux où il y a une maîtrise et une réduction des consommations permettent d'atteindre cet objectif qui est l'objectif climatique. Et si on s'en écarte, c'est évidemment toutes les conséquences qu'on peut avoir au niveau du climat.
Négawatt a, on peut le dire comme ça, une déclinaison régionale. C'est le plan élaboré, enfin le scénario élaboré par Virage Énergie Nord-Pas-de-Calais. Un mot là-dessus.
Le scénario Virage Énergie Nord-Pas-de-Calais, en fait, partait de deux éléments qui étaient, un, comment régionalement diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050, et deux, Gravelines, les 6 réacteurs situés à Gravelines, construits et connectés au début des années 80, arrivent enfin, on va dire en fin de vie, l'horizon 2020. Il serait déraisonnable de poursuivre l'exploitation, c'est augmenter les risques. Et donc c'est finalement anticiper et préparer, et c'était de pr- opposer aussi des moyens de couvrir nos besoins énergétiques et nos besoins électriques à l'horizon, au-delà de 2020. Et de façon imagée, ce n'est pas le 31 décembre 2019 qu'on prépare le 1er janvier 2020. Donc c'est dès aujourd'hui. Et donc c'est d'ailleurs tout le terme de transition. Hein. Dans transition, c'est pas du tout l'image de rupture, c'est l'image d'une construction pas à pas, méthodique, où éventuellement demain ressemblera à hier, mais où on aura comme ça une construction et avec un cap qui est maintenu, ce qui par contre change de la politique actuelle où on a plutôt eu jusqu'à présent un louvoiement plutôt qu'un maintien de cap en termes de politique énergétique.
Justement, l'État lance un grand débat sur le thème de l'énergie. Un mot là-dessus aussi.
Au plus, les différentes parties se saisiront de la question. Au mieux, la société pourra se mobiliser. Ce qui est indispensable, c'est les signaux qui seront envoyés à l'ensemble des acteurs, aussi bien particuliers qu'entreprises. On ne sera pas au rendez-vous de 2050, au rendez-vous climatique et au rendez-vous énergétique, si on a sans cesse des louvoiements. Ce qu'il faut, c'est garder un cap qui permette à l'ensemble des acteurs de se saisir des opportunités aussi de changement, et de façon à ce que la société se mette en mouvement. Je prendrai l'exemple du solaire photovoltaïque, où il y a eu un fort développement en 2007-2008. Un certain nombre d'acteurs économiques étaient prêts à s'installer en France et à développer des sites de production et des emplois. Et quelques mois plus tard, il y a eu un moratoire, tout a été coupé. Et finalement, les acteurs ne se sont jamais installés, puisque on voit bien, finalement, c'est une politique un peu, à la petite semaine ou assez chaotique, qui ne donne pas de signaux clairs et stables de long terme, ce dont a besoin une transition énergétique, puisqu'on est vraiment sur du long terme. 2050, hein, si on prend un peu la fin des travaux de prospective, les personnes qui termineront cette transition ne sont pas encore nées. C'est avoir cet élément en tête, hein. Donc on est vraiment sur quelque chose de long terme, mais dont le départ ne doit pas être reporté au lendemain. C'est dès aujourd'hui qu'on doit commencer, en gardant un cap, avec un rythme, et quelque part sans non plus précipitation qui ferait que la machine s'emballe ou qu'on ne parviendrait pas et que finalement on risquerait de baisser les bras. Donc c'est quelque chose, tout le travail de Negawatt, d'identifier aussi les rythmes de monter en capacité, de monter en charge des différentes filières, rénover plusieurs dizaines de millions de logements. Il ne s'agit pas de dire qu'on va faire ça demain. Déjà, on ne pourrait pas le faire économiquement. On n'a pas les mains, on n'a pas les bras et compagnie pour le faire. Et en plus, quelque part, après-demain, on devrait tout arrêter. Tous les acteurs économiques, finalement, se retrouveraient sans activité. Donc, on voit bien que c'est quelque part, c'est toute une planification qu'on doit réintégrer, à la fois pour des positionnements, pour des arbitrages à titre individuel, mais aussi à titre collectif.
Stéphane Bally, membre de la compagnie des Negawatts et de Virage Énergie Nord-Pas-de-Calais, il sera ce soir à Arras pour cette rencontre-débat organisée par Attac Artois Ternois Lagoel. Rendez-vous à 19h30 à l'UFM Centre d'Arras, au 37 rue du Temple. C'est juste à côté de la fac.